केशवधृतमीन शरी जय जगदीश हरे
जय जगदीश हरे
क्षितिरति विपुलतरे तव तिष्ठति पृष्ठे धरणि धरणकिर चक्र गरिष्ठे केशवधृत कच्छपरु जय जगदीश हरे
जय जगदीश हरे।
Dans Remue Ménage, nous discutons avec Gwenda Chadal, la réalisatrice du film Badgie on the Beach.
Somebody asked you yesterday night if you could make a film in India, and you said, well, if I can keep my point of view of someone living outside of India, what does it mean really in deep for you?
Quelqu'un vous a demandé dans le débat qui a suivi la présentation de votre film si vous pourriez faire un film en Inde. Et vous avez répondu « Oui, mais si je peux garder mon regard de femme indienne de la diaspora ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
It means is I could make a film about people from England going to India in that sense, you know. But I would be able to bring in a diasporic element.
So what does it mean, this, to bring a diaspora element? What is it? What is it so different to be living outside of India or being in India today and making movies?
Well, it means that you just look at the country differently. You look at it in the way, you know, you have an understanding of it as an Indian in terms of culture and family, even though, like, my grandparents left at the turn of the century, but you also appreciate it from a European point of view. You're bringing a European sensibility as well as an Indian sensibility. So it just means you are able to explore it on a different level and from a different point of view. But also, you know, a lot of my work is about challenging what you expect, you know, and I don't like the notion of kind of exotifying India or fetishizing it, you know. And I think that in many ways, you know, like, for example, in Badgie, we had a woman from India who was coming to England for the day. And rather than show her as the typical sort of Indian, you know, quiet, submissive woman in exotic clothes, she was the most westernized, you know, in her Chanel suit and everything. So I like to challenge notions that people have. So if I do go to India and make a film, it'll be very much an aspect of India that, you know, somehow subverts what people might be expecting to see.
Alors, si je faisais un film effectivement en Inde, ce serait un film sur des gens qui vont en Inde. Parce que j'estime que je dois amener ces éléments de la diaspora. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ces éléments propres que peuvent amener les gens de la diaspora? Eh bien, c'est de montrer cette différence de gens indiens qui vivent en Angleterre et qui jettent un regard différent, évidemment, sur leur pays. Parce que si moi j'arrive en Inde, j'arrive avec ma culture indienne. Quoi qu'il faut bien dire que mes grands-parents ont quand même quitté l'Inde il y a déjà au début du siècle. Mais en plus, j'arrive aussi avec ma sensibilité européenne. Et donc, je vais explorer tout ça à des niveaux différents. Et puis, mon travail, essentiellement, ce qui est important, veut toujours remettre en cause ce que les gens attendent. Moi, je ne veux absolument pas fétichiser l'exotisme. Et dans Badgie, par exemple, il y a à un moment donné une femme indienne qui est censée venir en voyage pour un jour à Londres. On s'attend à la voir très exotique dans son sari, mais pas du tout. Elle est la femme la plus occidentalisée. J'aime beaucoup provoquer les images que les gens s'attendent à voir. Et donc, si je faisais un film sur l'Inde, ça aurait tout à fait ce style.
If I understood well, but it seems to me that you said if will someone let me be with my point of view of the diaspora, do you think in India they are not interested or they are afraid of the point of view of someone living outside?
Est-ce que vous croyez que les gens en Inde sont inquiets de vous voir tourner un film sur eux? Parce qu'il me semble que j'ai cru comprendre que vous disiez si on me laissait tourner un film en Inde.
I don't think Indians are afraid of anything. I think it's a vast country with a magnificent history and culture. I think it can deal with anything and has dealt with everything. And I think that And in a way, you know, I am an example, you know, of three generations removed, you know, still pursuing a sense of Indian culture, but, you know, taking it into a different kind of way, but it's still the Indianness inside me that's propelling a lot of the ways I look at things. Even if in England, since Bhaji, I've made a drama for for BBC One, a two-part drama series, which has nothing to do with Indians, which is to do with white working-class people in Liverpool. But it was my Indian background that allowed me, I think, to make a film that was very poignant, you know, and treated them with dignity, you know, as opposed to just doing them in the usual sort of way that people look at people in the north of Britain, you know, in a very sort of comic type of way. So I think that, you know, I am actually developing a script at the moment which is set in Britain and India. So, you know, it is something I will be exploring at some point in the future.
Do you think it's a nice... Pardon, j'ai pas eu le réflexe de couper. Alors, elle dit que non, pas du tout. Elle pense pas que les Indiens ont peur de quoi que ce soit. De toute façon, c'est un grand pays qui a une belle histoire, une belle culture et qui sont capables de faire tout ce qu'ils veulent avec tout. Mais elle, elle est un exemple de cette génération nouvelle qui a envie de poursuivre, de continuer, de porter la culture indienne, mais évidemment d'une façon différente. Mais par exemple, elle a tourné un film dont je vous parlais tout à l'heure, I'm British But, qui a à voir sur la situation dramatique que vivent par exemple la classe moyenne blanche dans le nord-ouest de l'Angleterre. Alors elle pense que, évidemment, sa culture indienne et son expérience indienne qui, quelque part, lui ont fait parler de cette catégorie sociale avec un sens de la dignité que peut-être les Anglais eux-mêmes n'auraient pas eu et qu'ils auraient peut-être tourné en ridicule. À l'heure actuelle, elle était en train de faire son nouveau film justement sur ce... avec un pied en Angleterre, un pied par rapport à l'Inde, et elle pense que c'est très important de pouvoir mettre en valeur cela.
To have here in Créteil women making films in India and women making films outside of India, it brings something more than to see on one side and on the other side feel separate.
Yes, I think it's very important. I think that it's a way of, you know, not allowing, you know, us to be culturally, you know, fixed, you know, and to show that the cultural influences are global. You know, they're not. It's not a question of being fixed to a particular nationality or national boundary. And there are Indian people all over the world. You know, there is the presence of Indian culture all over the world, as there is European, as there is African, you know, as there is Far Eastern. I mean, those influences are everywhere. So, as for me, it's more important that we talk globally about culture and race rather than specifically of each country all the time, because that's how the world is now.
But you think any?
Alors je lui demandais si pour elle c'était une chose intéressante de voir se confronter des films qui sont réalisés par des femmes en Inde, vivant en Inde, et des femmes indiennes qui vivent à l'extérieur. Est-ce que ça amène un plus ? Alors elle pense que oui, c'est très important parce que ça montre bien que la culture n'est pas paralysée, figée comme ça, que en fait l'influence peut être venir de partout. De toute manière, on trouve des Indiens partout dans le monde aujourd'hui. Il y a aussi l'influence des pays africains. Il y a des Indiens qui sont en Europe et qui vivent l'influence des pays où ils se trouvent. Donc il y a des influences un petit peu partout, et c'est bien plus significatif d'avoir de parler d'une influence générale, globale, que de mettre en évidence l'influence spécifique d'un pays.
India has a certain point of view anyway in his filmmaking. At least maybe the women more.
Not necessarily. I think, you know, it's the world has changed so much that everyone, that, you know, it's a very complex thing to say, you know. I mean, look at India now. There is MTV, there is satellite, there are, you know, young people in India are like changing enormously, you know, whereas in rural areas, situations are still, you know, very similar to how they might have been 50 years ago, maybe. I mean, I don't know, but I would imagine, you know, that cultures are always changing. It's not, nothing is ever fixed. And I think it's important to celebrate those changes rather than pursue things that are fixed.
pour elle, elle constate que le monde est en train de changer. On est du monde des satellites, etc. Et que les jeunes en Inde, par exemple, changent beaucoup. Peut-être, bon, dans la campagne, les choses sont-elles plus figées? Elles restent-elles ce qu'elles étaient il y a 50 ans? Mais en règle générale, on voit que même la culture change. Ce n'est pas une chose figée qui évolue. Et il est important de célébrer ces changements.
Thank you very much.
Okay, no problem. Okay.
Voilà. Alors, je remercie beaucoup Gurinder Chadha. J'espère que cette traduction faite à l'emporte-pièce aura rendu compréhensible cette interview que je tenais à faire parce que je trouvais important d'avoir ce regard justement d'une femme indienne qui vit en dehors de l'Inde proprement parlée. Parce que lorsque l'on découvre les films indiens faits par des femmes qui vivent en Inde, il faut quand même bien avouer que c'est une histoire complètement différente. Et là, je vous embarque dans le film Rooda Ali, qui est réalisé cette fois-ci par une femme qui vit en Inde et qui s'appelle Kalpana Lamji. Son film Rooda Ali, la pleureuse. Ali, c'est l'histoire de Sanichari. Sanichari, c'est une femme qui est considérée comme insensible car elle ne pleure jamais. Sanichari, ça veut dire « est née un vendredi ». Or, « est née un vendredi », semble-t-il, c'est une tare, c'est un mauvais œil qui est tombé sur la femme que l'on dénomme ainsi. Sanichari a été abandonnée par sa mère. Elle a été mariée à un alcoolique, la laissant seule avec un fils qui va la désoir beaucoup parce qu'il va, entre autres, fréquenter les prostituées, décider de se marier avec l'une d'entre elles. Il traîne toute la journée, il ne fait rien, donc déçoit sa mère. Elle-même, elle entre au service comme servante de Hukum, qui est un seigneur du Rajasthan, puisque le film se passe au Rajasthan, dans cette région qui est à la fois somptueuse de couleurs, mais en même temps la plus pauvre de l'Inde, une des plus pauvres de l'Inde. Et Sanichari va, le maître Hukum va tomber amoureux de Sanichari. Mais comme elle appartient à une caste inférieure, et elle craint même que son ombre ne pollue les gens de la haute caste auquel appartient Hukum. Donc rien ne va se passer entre les deux. Même si Hukum prétend sans arrêt qu'il ne pense pas au problème de caste et qu'elle a qu'à se laisser et convaincre. Discours assez étonnant d'ailleurs dans le film. Et puis, à un moment donné, un des notables locaux se meurt. Et là, elle va faire la connaissance à son chevet de Bikini, qui est une Rooda Ali, c'est-à-dire une pleureuse, selon la tradition du Rajasthan. On fait pleurer les autres à la place des gens concernés. Et Sanichari va se confier à Bikini, va raconter toute son histoire. Et elle apprendra beaucoup plus tard, alors qu'elle comptait beaucoup sur cette relation avec Bikini, elle espérait enfin revivre une histoire plus douce par rapport à tout ce qu'elle avait vécu de très dur dans sa vie. Et bien, à l'ultime moment de cette rencontre si chaleureuse, tout à coup Bikini va devoir partir. Et peu de temps après, on lui apprend que Bikini est morte, mais qu'elle lui a fait dire au dernier moment qu'elle était sa mère. Alors, dans ce film, vraiment, on est, je crois, dans la tradition totale des films indiens. Kalpana Lajmi a vraiment réalisé ce film dans la tradition dramatique de l'Inde, avec la musique, les chants dramatiques, avec les grands espaces qui viennent ponctuer les scènes très dramatiques, les gros plans. Et ça va très lentement, parfois peut-être un peu beaucoup lentement, mais en même temps, il y a une somptuosité dans la façon d'installer les personnages et les sentiments. Que si au début on a tendance à un peu s'impatienter, au bout d'un moment on s'installe et on se laisse entraîner dans un film qui dure plus de 1h40, donc qu'est-ce que dis-je, 2h30, donc vraiment on s'installe dans l'histoire avec Sanichari. Alors, Kalpana Lajmi n'avait pas beaucoup de temps à consacrer aux journalistes que nous sommes. Elle nous a renvoyés plusieurs fois. Alors, je vous raconte juste ce qui est dit d'elle dans le catalogue du Festival international de films de femmes. On nous dit que Kalpana Lajmi, elle sait ce qu'elle veut. Elle est la nièce du grand styliste du cinéma indien Gurudutt et après quelques expériences comme assistante, elle a réalisé plusieurs films. Comme Aparna Sen, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été d'abord une grande actrice du cinéma indien, puis elle-même réalisatrice, elle sait ce qu'elle veut. Son premier film, qui s'appelait Un instant, a lui aussi choqué les susceptibilités bien pensantes en Inde en racontant l'histoire d'une épouse délaissée vivant dans les plantations de thé au fin fond des montagnes du nord-est de l'Inde. Elle décide un jour d'accepter une relation extra-conjugale. Alors ce film n'adhère pas toujours à une quelconque idéologie féministe, il semblerait que ce soit rarement le cas d'ailleurs dans les films faits même par les femmes indiennes. Il y a même une happy end, une fin heureuse, car la femme va annoncer à son mari que l'enfant qu'elle porte n'est pas de lui. Et pourtant, il accepte l'enfant à la sortie de la maternité, comprenant que l'amant de sa femme n'était qu'un amour de passage. Roudali, lui, est un film plus axé sur les femmes. Il n'y a que des femmes qui sont vraiment sous la loupe. Il montre la force des liens qui existent entre les femmes et cette solidarité que raconte le film est finalement assez rare, semble-t-il, dans le cinéma indien. Aucune des réalisatrices ne tombe dans les catégories habituelles de celles du commerce, etc., ou de l'art en particulier. En fait, elles ont une parfaite connaissance de l'outil cinéma et elles ne se définissent pourtant pas comme des artistes, mais ne se conforment pas non plus aux conventions ultra-commerciales du cinéma traditionnel indien. Pour Aparna Sen, par exemple, le fait de travailler dans sa langue maternelle, le bengali, n'est pas très significatif, car le Bengale a une riche tradition cinématographique qui est fort apprécié par le public et la critique. Et pour le cinéma hindi, dans sa conception la plus large, eh bien, les choses ne sont pourtant pas aussi simples. Par exemple, avec son premier film, Un instant, Kalpana Lajmi a surtout obtenu un succès de la critique, du monde de la critique, et avec Roudali, celui dont je vous parlais tout à l'heure, elle a eu un succès à la fois commercial et critique. Alors il y a des choses assez étranges qui se passent dans ce film, du genre le fils qui a 4-5 ans, tout à coup, même pas 3 minutes après, à 25 ans, la femme qu'elle a rencontrée avec qui elle s'entend si bien meurt de la peste en l'espace d'une minute de film, et les ellipses sont assez courtes parce qu'on ne comprend pas très bien tout à coup ces changements de situation temporelle, mais disons qu'on voit bien l'objectif qui est montré. Alors voilà pour le cinéma indien, cette croisée des regards entre femmes réalisatrices indiennes et femmes réalisatrices indiennes de l'Inde et de la Grande-Bretagne que j'ai essayé de tenter de vous faire partager, mais surtout cette expérience magnifique de l'association des femmes de SEVA, ces femmes qui travaillent avec les femmes du secteur informel du monde du travail et qui essayent de faire apprendre à utiliser le moyen de la vidéo pour pouvoir ensuite contacter d'autres femmes et les encourager à s'organiser pour défendre leurs droits. C'était donc notre entretien avec Namrata Bali en tout début de cette émission. Eh bien, je vous avais annoncé que nous parlerions ensuite avec Anka Schmidt, cette réalisatrice suisse qui présentait un long métrage documentaire qui a pour titre Magic Matterhorn à Créteil. Je voulais aussi vous faire rencontrer Martine Guillon qui nous parlait de quel travail elle fait avec les femmes de Créteil pour essayer de les encourager à venir au festival. Eh bien, je vous propose de faire ces deux rencontres la semaine prochaine. Il est trop tard aujourd'hui. Les problèmes de traduction et tout ça, ça rallonge beaucoup les événements. Alors, je vous propose de déguster ces deux autres rencontres la semaine prochaine. Et pour terminer Remue Ménage aujourd'hui, eh bien, je vous entraîne dans la musique de femmes tout à fait à l'autre bout du monde. Vous connaissez certainement la chanteuse Cher qui à l'origine chantait avec son compagnon Sonny qui ensuite a fait une carrière de chanteuse toute seule. Eh bien, il sort un CD qui retrace toute sa carrière. Cher. pour cette fin d'émission dans Remue Ménage, nous vous proposons une rétrospective, les plus belles chansons que chantait Cher dans sa carrière de chanteuse. Et là, tout de suite, eh bien, c'est une des chansons qu'elle chantait au tout début avec son compagnon Sonny. Qui, cela dit, paraît-il, la battait. Heureusement qu'elle l'a quittée.
I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't pay the rent, for it's earned, our money's all been spent. I guess that's so, we don't have a plot, but at least I'm sure of all the things we got. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring.
Dans notre émission aujourd'hui de Remue Ménage qui s'achève ainsi. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine avec deux autres rencontres. Anka Schmidt, réalisatrice suisse du film Magic Matterhorn, et Martine Guillon, responsable d'un travail avec les femmes de Créteil qui, pour les encourager à venir au festival. Tout de suite, ce sont les informels de Radio Pleine Lune. Et vous pouvez, si vous le désirez, bien sûr encore aller au festival de Créteil. Je vous rappelle qu'il dure jusqu'au dimanche 31 mars. Alors n'hésitez pas.